Bonjour, bonjour à toutes celles ceux qui nous écoutent. Daniel, avez-vous pour un tout petit moment et j'ai avec moi Sceau à la régie. Bonjour Sceau, merci de ta participation et de m'aider un peu donc à cette fameuse régie. Voilà, donc aujourd'hui article 25, comme tous les mercredis. Notre ami Lucien n'est pas encore arrivé. Et nous allons quand même faire commencer quelques explications en attendant que ce dernier arrive. Voilà. Alors, il est question actuellement du code du travail qui dispose que le CHSCT a pour rôle de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique, mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement, voilà, et ce, mis à sa disposition par l'entreprise extérieure, voilà. Mais par contre, le CHT a été supprimé, et oui. Et là, nous allons voir exactement ce qu'il en est par rapport à ça. Alors, est-ce que le CHT est obligatoire? Eh bien, nous allons voir ça. Le CHCT est obligatoire dans les entreprises et établissements distincts. Si l'effectif d'au moins 300 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs. Voilà, c'est la première explication. Quelles sont les principales missions du CHSCT? La mission principale du CHSCT est de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés. La santé vise à la fois la santé physique et mentale. Voilà. Toujours pareil, qui désigne les membres du CHSCT? Voilà, nous y venons. Les représentants du personnel au CHSCT sont désignés par une délégation du personnel spécifique, composé par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. Voilà. Donc, qui peut siéger au CHSCT? Tous les salariés de l'entreprise peuvent se présenter aux élections du CHSCT, à l'exception des salariés ayant reçu une délégation écrite, je précise, en les assimilant au chef d'établissement. Comment faire intervenir le CHSCT? Pour tout problème rencontré dans les écoles ou à titre personnel dans le cadre du travail, si votre santé morale ou physique est affectée, il est important de contacter vos représentants syndicaux, s'il y en a bien sûr, afin qu'ils puissent intervenir auprès de la hiérarchie et traiter votre situation en temps. Qui signe le PV du CHSCT? C'est un peu le jeu question-réponse, hein. Dans la pratique, toutefois, il est coutume pour le secrétaire du CSE de signer le PV afin d'attester que c'est bien lui qui l'a écrit. Car la rédaction par le secrétaire est quant à elle une obligation parfois, son employeur ou son représentant signe également le PV. Le rôle de la CSE maintenant. La CSE a pour mission d'assurer l'expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leur intérêt dans les décisions sur le point suivant: gestion et évolution économique et financière de l'entreprise, organisation du travail, ce qui est très important. Quel est le rôle du CHSCT dans l'entreprise? Il a un rôle de conseil auprès de l'employeur et doit veiller à ce que les conditions de santé et de sécurité soient respectées et appliquées. Le CHSCT est compétent pour donner un avis sur les sujets d'ordre général intéressant, l'hygiène et la sécurité dans les conditions de travail. Quelles sont les obligations de formation concernant les membres du CHSCT? Dans toute entreprise, la formation est d'une durée minimale de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel dans une entreprise de 300 salariés et plus. La formation est d'une durée minimale de 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions du travail. Quel est le délai recommandé de convocation des membres du CHSCT? 15 jours. Dans quel délai devez-vous convoquer le CHSCT? L'ordre du jour doit être communiqué 15 jours avant la date prévue pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par urgence éventuellement. Comment le CHSCT est-il convoqué aux réunions, liaison sociale? Voilà. Et comment se déroule une enquête du CHSCT? Comment l'enquête se déroule-t-elle? Matériellement, l'enquête peut donner lieu à un transport sur les lieux de la situation l'ayant déclenché, peut conduire à la délégation à accueillir des informations, notamment du sursite, à s'entretenir avec des salariés, des membres de l'encadrement, etc., etc. Toujours sur le CHSCT, qui est le président. Secteur privé. Dans le secteur privé, le CHSCT est précisé par le chef d'entreprise ou son représentant. La délégation du personnel est désignée par un collège unique, composé des délégués du personnel et des élus du comité d'entreprise. Les élus du personnel comprennent un tiers de cadre ou d'agents de maîtrise. Alors, comment contacter le CHSCT? Eh bien, contacter les CHSCT départementaux et académiques. Voilà, il y a des tas de numéros de téléphone, mais il faut toujours se rapprocher donc de l'entreprise. Voilà. Qu'est-ce que le délit d'entrave au CSE? Le délit d'entrave est l'action ou l'omission qui porte une atteinte à un représentant du personnel dans l'exercice de ses missions. La désignation d'une institution représentative du personnel ou à l'exercice du droit syndical. Qui fait le compte rendu du CSCT? Quels sont les salariés protégés, etc., etc. Qui fait le compte rendu? En effet, le CSE peut tout à fait confier la rédaction des comptes rendus de réunion. CCST est un prestataire extérieur. Pour cela, il a un droit d'utiliser son budget de fonctionnement, compte rendu et spécialisé dans les rédactions des procès-verbaux. Bon, quels sont les salariés protégés, bien sûr? Les personnes suivantes bénéficient d'une protection contre le licenciement. Salariés sans mandat syndical demandant l'organisation d'élections professionnelles, si la demande est ensuite reprise par une organisation syndicale. Salarié mandaté par une organisation syndicale qui demande de l'organisation d'élections. Quel est le nombre d'heures de délégation? En tout état de cause, le nombre mensuel d'heures de délégation de chaque membre titulaire au CSE ne peut pas être inférieur à 10 heures des entreprises de moins de 50 salariés, 16 heures des entreprises de plus de 50 salariés. Quels sont les deux budgets du CSE? Eh bien, voilà. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE dispose de deux budgets, un budget de fonctionnement du CSE ou un budget AEP et un budget consacré aux activités sociales et culturelles, appelé aussi budget ACS ou CSE. Quels sont les quatre moyens d'action du CSE en CSCT? Pourquoi le document est unique? Alors, quels sont les quatre moyens d'action? Nous allons le voir. Les moyens d'action du CSE sur le sujet SST, commission commerciale, commission information, commission économique, commission des marchés, bien sûr, etc., etc., etc. Pourquoi le document unique est obligatoire? Eh bien, nous allons voir ça. Le DUR permet à un employeur de faire un inventaire de l'ensemble des risques qui existent ou peuvent survenir dans son entreprise en matière de santé, de sécurité des salariés. L'établissement de DUR par l'employeur est une obligation légale prévue par l'article, encore un article, R.4121 du Code du travail. Alors, c'est quoi un CISSCT? Collège inter-entreprise de sécurité, de santé, des conditions de travail, structure de coordination des mesures sociales à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail devant être constituées au-delà d'un effectif de travailleurs et d'entreprises définies réglementairement. Comment déclencher un CHSCT? Une réunion extraordinaire du CSE peut être demandée par l'employeur ou son représentant, ou à la majorité des membres élus titulaires, ou encore à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail. Voilà, et encore un article, bien sûr. Bon, il s'agit de l'article L2315-27 du Code du travail. Bon, voilà, c'est encore un article. Réunion extraordinaire CSE, modèle convocation. Voilà. Quels sont les sujets abordés en CSE ? La consultation du CSE peut concerner les sujets suivants. Nouvelle organisation du travail sur toute l'entreprise, comme dans tel ou tel service, ou atelier, restructuration, licenciement économique, mise en place ou modification d'une prévoyance et d'une complémentaire santé. Qui inviter à la première réunion CSE ? À ce titre, convient d'inviter à cette première réunion les membres élus titulaires et les suppléants s'agissant d'un comité d'entreprise, des comités entrants et sortants, afin que la documentation attachée à la gestion du comité, soit transmise. En quoi est-ce que le CSE a impacté le protocole d'accord préfectoral ? Quelles sont les deux principales missions d'un CHESCT ? Voilà. La mission du CHSCT est de contribuer à la protection de la santé, de la sécurité des salariés. La santé vise à la fois la santé physique et mentale. Bon. Le CHSCT n'existe plus. Quel organe le remplace ? Eh bien, nous allons voir ça. Non, les missions du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail CHSCT sont désormais exercées depuis le 1er janvier 2002. Par le comité social économique CSE. Et ça, c'est tout bénéfice donc pour le patron. Ouais. Les salariés ne peuvent plus, s'occuper de leur santé comme avant. Bon, le CHSCT existe-t-il toujours ? Non, il n'existe plus, on le sait. Quand commence une enquête, eh bien, nous allons voir ça. Une enquête criminelle commence généralement lorsqu'un organisme d'application de la loi et que la police reçoit une plainte d'une personne alléguant d'un crime a été commis. La police rassemblera ensuite des preuves pour déterminer si un crime a été commis et si c'est le cas échéant qui l'a commis. Voilà. Et je resterai là pour le CHSCT. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais les CHSCT ont bel et bien disparu et c'est une perte énorme pour les salariés. Voilà. Je vais dire à mon copain, à Sceaux, de mettre un peu de musique en attendant que M. Lucien arrive.
Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomades et vagabondes. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Tous les chemins que nous avons suivis, tous nos détours nous ont menés ici. Ici ensemble et maintenant, tout devient tellement plus évident. Tant de fois nous nous sommes perdus. Tant de fois nous nous sommes cherchés, tant de fois nous avons cru que jamais, oh jamais nous pourrions y arriver. Soyons de ceux qui pensent encore qu'il y a bien une vie avant la mort. Si elle était là, juste dans nos yeux, ne demandant qu'à briller de mille feux, et quitte à nous brûler les ailes, si nous nous embrasions avec elle, si nous la laissions nous emporter loin des vents mauvais. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. D'une seule chose soyons coupables, d'avoir osé, nous et nos semblables, ouvrir nos cœurs, nos corps et nos êtres à tous ces improbables peut-être. Toutes ces choses inaccessibles, pour qui ne croit pas en l'impossible. Si elles étaient là, juste sous nos pieds, si nous n'avions qu'à les ramasser, comme ceux-là qui ont écrit notre histoire, ces âmes rebelles en nos mémoires. au pied du mur qu'ils ont bâti. Saurons-nous relever le défi? Saurons-nous enfin nous reconnaître? Saurons-nous enfin nous reconnecter? Sommes-nous sur la même longueur d'onde, positive et vagabonde? Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Avant qu'aujourd'hui ne s'achève, avant que demain ne nous enlève, profitons de ce voyage sans retour. Le ciel peut bien attendre encore un jour. Nos voix, nos rêves à l'unisson, nos sourires, nos larmes, nos frissons. Ici le temps ne nous est pas compté, en cet instant d'éternité. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.
Voilà, je reprends le cours de l'émission. Notre ami Sceau est donc au téléphone. Aujourd'hui, voilà, après cette histoire donc de CHSCT, nous allons voir ce qu'il en est exactement pour les Pambas. Les Pambas qui sont venus il y a maintenant une quinzaine de jours donc à l'émission. Alors, en grève depuis maintenant pas mal de temps, ils accusent leur direction de racisme et d'intimidation. L'inspecteur du travail a fait une visite donc dans l'entreprise pour dire leur calvaire au sein de l'atelier de la blanchisserie Pama 15e, dont ils accusent la direction d'incitation raciste et d'intimidation physique. Une vingtaine de salariés en grève depuis plus d'un mois maintenant ont été reçus donc vers 11h30 par l'agence régionale de santé. Cela s'est passé donc la semaine dernière à ma connaissance. Voilà. Il y a eu un rassemblement à l'Agence régionale de santé, effectivement. 6 salariés ont été reçus afin d'exposer leurs conditions de travail avant qu'ils n'exercent fin décembre leur droit de retrait puis leur droit de grève. Alors, accusation de harcèlement dans ce groupe de plusieurs salariés assurent avoir été témoins d'insultes à caractère raciste de la part donc de la direction. Le 19 décembre, tout bascule donc l'année dernière. Voilà. Tout le bascule alors que les deux hommes intimident physiquement une partie des salariés après que le responsable hiérarchique les ait pointés du doigt sur le parking de l'entreprise. À la demande de la direction, explique-t-il, depuis aucun échange n'a eu lieu entre les salariés et leur direction, qui s'est murée dans le silence. Il y a 2 semaines a eu lieu une médiation entre les salariés et des membres de l'inspection du travail pour trouver des issues à ce mouvement. Une tentative qui n'a pas été suivie d'effet. La direction dénonce toujours les salariés. Des faits inexistants, alors depuis un mois maintenant, la vingtaine de salariés continuent de tracter près des clients ou de la blanchisserie. Pambas a fait d'alerter les professionnels de santé et plus largement le grand public sur leurs conditions de travail inadmissibles. Bon, pas de douche, pas de confort, pas de douche, ni d'accès en robinet, rien du tout. Au service de plusieurs structures hospitalières, la blanchisserie Pambas doit respecter certaines règles en matière de lavage, et puis de manipulation des linges propres. La séparation entre le propre et le sale n'est pas correctement réalisée afin d'augmenter la cadence de travail, témoignent plusieurs salariés. Ces derniers accusent en outre la direction du site de ne pas leur permettre d'avoir 3 ou 15 minutes de douche à la fin de leur journée de travail avant de regagner leur domicile. Il n'y a pas de robinet pour remplir ma bouteille d'eau, alors qu'un atelier de blanchisserie est un lieu où il peut faire très chaud. Point d'un salarié se disant personnellement victime de racisme et des IO d'en visiter la justice. Une évaluation en cours par l'inspecteur du travail. D'ores et déjà, l'inspecteur du travail a procédé à des contrôles au sein de l'entreprise. Selon les représentants syndicaux des salariés qui l'ont révélé sur les réseaux sociaux, plusieurs anomalies ont été relevées parmi elles. L'emploi d'intérimaire pendant le mouvement de grève, ça, c'est, qui est encore interdit par la loi, ou encore le non-respect du droit de travail pour répondre aux difficultés financières sérieuses auxquelles ils font face. Ces salariés ont annoncé la mise en place d'une cagnotte solidaire qui s'élève jusqu'à quelques centaines d'euros. En attendant que notre tour soit reconnu et que justice soit faite, s'avance un salarié venu rejoindre les grévistes pendant que leur collègue a été reçu par l'Agence nationale de la santé. Voilà. C'était donc le petit rapport sur les Pamars. Bonjour Lucien.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Daniel. Voilà.
Je voulais juste rajouter un truc sur les Pamars, c'est leur cotisation pour leur caisse de grève, c'est cotizup, cotizup.com, solidarité financière Pamar, et leur piquet de grève, c'est tous les jours de 7h30 à
13h. Le piquet de grève, c'est tous les jours, c'est tous les matins à partir de 7h30 jusqu'à et durant pratiquement toute la journée. Quoi, là.
Et c'est de l'eau 47 avenue Bois-Baudran.
Oui, c'est ça, oui. À proximité de la cité Bassens, cité que j'ai connue à sa construction il y a très longtemps.
Oui, bon, Daniel, super. Justement, à ce sujet-là, je voulais intervenir sur ce sujet-là, normal. Par rapport à ça, j'ai fait un papier parce que je ne sais pas là, si vous en avez parlé, mais non seulement ça concerne en fait bien entendu les salariés de Pamars, mais ça relève d'un problème beaucoup plus grave de la santé privée en général qui est uniquement basé sur le fait d'un rapport financier par rapport à la santé en général. Et donc c'est bien lié à ça. Et non seulement c'est le sort des travailleurs de cette société qui est très préoccupant, mais c'est aussi la santé publique qui en devient préoccupante, car bien entendu, leur revendication, c'est plus de dignité au travail et les salaires, mais c'est surtout et aussi la sécurité au travail, ainsi que les produits employés, ainsi que l'hygiène et la propreté, c'est des draps d'hôpitaux, quoi, je veux dire, il faut les désinfecter et tout. C'est tout un travail extrêmement avec un protocole à suivre, etc., etc. Et dans les conditions que la direction exploite ses travailleurs et fait fonctionner cette entreprise, bien entendu, c'est pour le moindre coût pour la santé privée. Et je le disais, c'est extrêmement grave, car on le constatait avec notamment les organismes sociaux et le syndicat CGT des organismes sociaux et le syndicat CGT de la santé, on constatait qu'en fait, il y a des dérives dans notamment les secteurs comme... Et la responsabilité est engagée, c'est pour ça qu'il y a devant l'ARS, et ça va aller plus loin, hein, parce que là, on ne peut pas... On ne peut pas laisser faire ça, c'est-à-dire avec quand même de l'argent public, notamment de l'argent de la sécurité sociale, avec l'argent des travailleurs de la santé et l'argent des gens qui se font soigner, travailleurs, retraités. Cet argent-là, c'est que pour faire des bénéfices sur leur dos. Mais c'est là vraiment sur leur dos, sur le dos de leur santé, quoi. Donc, à un moment donné, le problème des Pamars, il faut qu'il soit résolu parce que c'est une question de santé publique. Ça devient une question, et c'est une question de santé publique. Pas ça devient, c'est une question de santé publique. Je voulais un peu insister sur ce point-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Daniel, qu'est-ce que tu en penses ? C'est une réalité. Oui, autrefois, on était devant l'ARS, pas pour rien. Hein.
Oui, de toute façon, cette histoire-là est malheureusement loin d'être terminée. Parce que
oui.
ça risque oui. le conflit va s'enliser parce que la direction ne va pas larguer non plus, ne va pas larguer, et les salariés grévistes ne lâcheront pas non plus. Donc on va se préparer.
Justement, c'est en fait un conflit qui s'enlise comme ça. Ça veut bien dire la responsabilité de l'ARS, la responsabilité du groupe Sainte-Marguerite et de ses auxiliaires est engagée, et la responsabilité de la santé publique derrière est engagée, Daniel. C'est ça qui est important. Donc, et ils ne lâchent pas pour ces raisons-là. Les travailleurs ont conscience de tous ces dangers et de tout ce qui est derrière tout ça. Le niveau de conscience, d'ailleurs, que je salue de ces travailleurs est important. Et je crois bien qu'à un moment donné, va falloir passer un peu le cran au-dessus au niveau des actions qu'on peut mener, je sais pas, ça sera à eux d'en décider, hein, évidemment. Mais et d'ailleurs, ils ont été invités à une de nos émissions, et je crois que il va falloir qu'ils reviennent.
Mais de toute façon, te casse pas la tête, ils m'ont dit qu'ils reviendraient.
Voilà.
Ils reviendront.
Ben, il est 14h33, on passe à un autre sujet plus général. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, attends, je reprends un peu sur les Pamirs, là, deux minutes. Là.
Oui.
Au cours de l'émission, bon, ils se sont bien exprimés, ça s'est bien passé. Ils fournissent les hôpitaux, donc à linge propre, voilà, c'est tout. Et ils ont des 3 ou 4 camions qui tournent. Ceux qui font tourner les camions, ce sont des salariés. Et eux aussi, ils sont assis, excuse-moi l'expression, ils ont le cul entre deux chaises. Parce qu'ils sont bloqués entre les salariés grévistes et la direction par la même. Donc ça pose un problème au niveau... ça pose quelque chose d'assez important, quoi, voilà.
De quoi, les camions? Quels camions, tu veux dire?
Les camions de livraison, pardon.
Ben oui, ils livrent le linge sale.
Oui, ils livrent le linge sale, mais je veux dire par là qu'ils sont pris entre les chauffeurs, entre les grévistes et la direction.
Les chauffeurs, ils sont de la boîte, les chauffeurs.
Ils sont de la boîte, oui, absolument.
Eh ben, ils font pas grève, ça les regarde. Hein.
Ça c'est leur regard.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
De toute façon, maintenant, c'est pas difficile.
Ça les regarde, leur individualisme, leur façon de se positionner par rapport à la direction, etc. Ça les regarde. Ça ne nous regarde pas à nous. Ça, je veux dire, surtout pas à nous. Ça regarde les travailleurs en grève de Pamar, la discussion qu'ils ont avec eux. Mais ça te regarde... La conscience, l'engagement que tu prends quand tu rentres dans des mouvements de défense de la dignité, de défense des salaires, de défense de la santé publique, parce qu'on en est là. Quand tu rentres dans un mouvement de ce genre, ou que tu rentres pas... Il y a quelque part ta conscience aussi qui fait... Après, le collectif, c'est une chose. C'est le collectif, il y a des différences, mais le collectif, sur le fond de trucs principaux, il s'est engagé, voilà. Mais le collectif, il se crée à partir de la conscience de chacun. C'est intéressant comme sujet. Du retour de conscience, à un moment donné, d'une colère, d'un ras-le-bol, d'une émotion, d'une circonstance, ce que tu veux. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Ils n'ont pas pris rendez-vous avec les salariés de Pamar en grève. Voilà.
Ben, de toute façon, maintenant, le problème est réglé. Plus personne ne rentre, plus personne ne sort.
Là, ah, d'accord. Voilà.
Donc, les salariés grévistes sont toujours donc à la grille, mais ils ne peuvent
mais
plus entrer.
De toute
donc,
façon, ils peuvent faire entrer le linge sale qu'ils veulent.
De toute façon. Il n'y a qu'une personne qui peut rentrer, c'est la déléguée syndicale, c'est tout.
Ben voilà, ils peuvent faire entrer le linge sale qu'ils veulent. Hein. Il va s'accumuler, c'est encore pire, quoi.
Ouais.
Les trucs d'hygiène et tout, là, il y a quoi de respecter? Qu'est-ce qu'ils envoient les camionneurs chercher le linge sale, mais il entasse, qu'est-ce qui se passe? Comment ils font, là? Comment c'est géré, ce truc-là? T'imagines des tonnes de linge sale où il y a un tas de bactéries et tout dedans parce que ça vient des malades et tout? Et c'est quoi, ce truc-là? Ah non, mais... Bon, écoute, voilà, je crois qu'on a...
Ouais, Daniel, bah, ça, on a fait le tour de la question.
On a bien fait le tour. Il est déjà 14h36. On va mettre un petit morceau de musique pour détendre un peu l'atmosphère. Qu'est-ce que tu en penses?
Bon, comme tu veux.
Parce qu'après, j'ai à parler de ce qu'il a dit Macron hier par rapport à envoyer les gens à se faire tuer, les jeunes à se faire tuer en Ukraine. Là, pour, c'est très grave. C'est tellement grave que j'aimerais en parler deux minutes quand même, parce que, oh, pas longtemps, hein, de toute façon, pour une année. Et ça relève d'un fait qui me préoccupe. Qui doit nous préoccuper à tous. Bon, on envoie un peu de musique. Oui, donc je disais que il est très important de parler un peu de... C'est très important. De toute façon, au point où ça en est par rapport au mépris de classe dont fait part Macron, c'est... comment dirais-je ? C'est une fois de plus une démonstration de ce mépris de classe que de menacer d'envoyer des troupes, c'est-à-dire d'envoyer des jeunes du peuple donner leur sang pour les impérialistes, notamment pour Zelensky et sa clique. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans de ça, puisqu'on est en 2024, il faisait assassiner le secrétaire général de la jeunesse communiste d'Ukraine et il faisait incendier la maison des syndicats avec 60 personnes dedans, dont bien entendu des responsables syndicaux de syndicats de travailleurs. Et que Zelensky n'est plus ni moins qu'un nazi, qu'un fasciste. Mais ça, c'est le propre de l'impérialiste. L'impérialisme, quand il est dans une phase de crise terrible comme ça, que de mettre à la tête des États des hommes de paille qui sont des fascistes, des nazis en général. Et donc, par rapport à se dire là, et ce mépris de classe et tout, il y a le fait que Macron est... plus ou moins, on va dire, vilipendé, dans le sens où on met sur lui des étiquettes de psychopathe, de choses comme ça. Moi, je m'élève un peu contre ça, parce qu'en fait, tout de même, c'est quelqu'un d'assez costaud sur ses bases, on va dire, d'idéal. Je dirais pas même idéologique, ses bases d'idéal, de valeur, de sa classe. C'est-à-dire que c'est un valet de cette classe dominante, mais non seulement c'est un valet, mais aussi il est parti, une classe dominante dont Pinson-Charlot elle-même, Monique Pinson-Charlot, que je remercie d'avoir fait une interview que vous pourrez retrouver sur YouTube. Là. D'ailleurs, l'entrevue avec Monique Pinson-Charlot sur YouTube à Élucide dure 1h28, mais il faut l'écouter. Et ce passage remarquable où elle dit « oui, Macron fait preuve d'un mépris de classe évident dans tous les domaines. Là, hier, c'était on va envoyer des troupes, on va donner le sang du peuple pour des intérêts impérialistes. Et peu avant, c'était mais de toute façon, les pauvres, ils préfèrent avoir un abonnement VOD que de manger correctement. Parce qu'avec le fruit du travail qu'on fait, des richesses qu'on apporte à ce pays, n'oubliez pas que, par exemple, Lagardère, en un an et demi, deux ans, il a fait 30% de plus de bénéfices. Ça fait des milliards d'euros. C'est même incalculable quoi, pour nous. Quoi. Ça, même un milliard d'euros, c'est même pas ce que ça représente. Quoi. Je veux dire, voilà. Donc, à part ça, il sort des trucs comme ça. Mais... ce qu'elle dit et qui est très intéressant, ce que dit Madame Monique Pinson-Charlot et qui est très intéressant, enfin, je ne vais peut-être pas le dire comme elle le dit si bien, mais je vous conseille d'arriver, si vous arrivez à l'attraper, de capter cette interview là, qu'elle a fait dernièrement avec un assez bon média, on va dire, hein. Indépendant, bien sûr, parce que les autres, c'est pas la peine, on va dire. Un peu, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, c'est quelque chose... En fait, par exemple, tous les mois, il faut savoir qu'ils ont des cercles, c'est très riche, d'un groupe très hétérogène, parce que dans cette classe dominante, vous avez ceux qui ont quelques millions d'euros, mais qui ont des terres, qui ont des châteaux, des tableaux. Puis vous avez milliardaires comme les actionnaires de Total principaux ou les milliardaires en devises, comment on appelle, en actions, les milliardaires en portefeuille d'actions, etc. Et ça c'est encore autre chose. Bon, le capitalisme financier, c'est très complexe. Mais donc, vous avez toute cette classe-là qui a quelque part, et l'autre fois j'en parlais déjà dans une précédente interview, elle disait qu'elle en est au point, cette classe, où elle trouve que
les pauvres, ceux qui sont pas en trop bonne santé, ceux qui ont un peu, on va dire, des gens différents, qui sont un peu, j'appelle les gens différents ceux qui, par exemple, sont en ESAT, et allez, on va dire, ceux qui ont des pathologies comme la trisomie ou des pathologies relevant de la psychiatrie, mais bon, c'est des êtres humains, hein, tout être humain, on est à la fois tous les mêmes et à la fois tous différents. C'est ce qui fait notre grande beauté, d'ailleurs. C'est que nous sommes tous la même espèce, mais nous sommes tous avec nos différences. Nous sommes tous poussière d'étoiles, comme le disait si bien Hubert Reeves. Et nous retournons poussière d'étoiles quand nous mourrons. Donc, voilà, je fais un peu je parle un peu comme ça, parce que justement, en opposition complète au mépris de classe dont fait preuve Macron dans ses discours, c'est un homme public quand même, c'est le président de la République française, enfin, de ce qui reste de la République. Et donc je disais que c'est quand même remarquable l'analyse qu'elle avait fait là-dessus. En fait, c'est ces gens-là qui, dans une phase précédente, se disent aussi qu'ils sont prêts à sacrifier entre 500 millions et 3 milliards d'habitants. Et de toute façon, en considérant le risque climatique majeur qui de plus en plus arrive et tout, qui risque de détruire beaucoup de vies, beaucoup d'habitats, de ces gens-là qui, pour eux, sont inutiles parce qu'ils ne rapportent pas. Pour eux, nous ne sommes qu'un marché. Les Pamars avant en sont un exemple parfait, parce que l'exemple des Pamars, ça peut se généraliser à tout un combat de classe important. C'est-à-dire que cette classe dominante est en train de vouloir soumettre au point de pouvoir en détruire une partie, en sorte d'en éradiquer une partie qui leur semble inutile. Quand même, 2 morts par jour depuis que les CHSCT ne sont plus là, 2 morts par jour par accident du travail dans ce pays. On est passé derrière le Pakistan en accident du travail. Je veux dire, au Pakistan, pays en développement, il y a moins d'accidents du travail qu'en France. En pourcentage, hein. C'est un truc de fou. Je veux dire, on en est là, soi-disant un pays surdéveloppé, le pays des droits de l'homme, article 25, les droits de l'homme, même. Voilà, il y a Daniel qui me fait des signes bizarres. il hoche la tête et je crois que, en faisant ça, il a tout dit, quoi. Voilà. Hein, voilà. Bon, Daniel, ça va. Donc, je continuais là-dessus. Il semblerait que le fait de Macron soit qu'il applique une directive. Et comme je vous le disais, tous les mois, ils se réunissent au siècle à Paris, derrière un banquet, où il y a des journalistes évidemment. Alors les journalistes BFM, TF1, tous les journalistes les plus carpettes, il n'y a pas d'autre mot, les plus carpettes du système, hein, qu'on leur file 5, 9, 10 000 euros par mois, voire plus, pour dire que des mensonges et faire en sorte que le peuple se soumette, quoi. Voilà, l'affaire Navalny en est un exemple. Navalny, Poutine, il a assassiné Navalny. Alors Poutine, de toute façon, c'est un impérialiste comme un autre qui soumet son peuple, qui regarde les intérêts un peu de son pays et beaucoup les siens et ceux de ses copains. Mais en attendant, Navalny, on ne sait pas par qui il a été assassiné, peut-être par les siennes d'ailleurs, par ses copains à lui, mais Navalny, c'était un nazi, carrément. Voilà, c'était un nazi. Comme Netanyahou, c'est un nazi. On va jusqu'à l'histoire de la Palestine, là. Et l'histoire de la Palestine, c'est typique. Mais tout se rejoint dans ce mépris de classe, dans ce mépris des peuples qui veulent leur autodétermination, dans ce mépris des travailleurs qui veulent vivre plus dignement. Tout est mépris de classe parce que c'est une chose commandée, mais pas commandée qu'en France, mais pas faite que par Macron. C'est une chose commandée mondialement par cette petite classe dominante afin de nous soumettre, que nous acceptions cette soumission, c'est-à-dire que de la naissance à la mort, être précaire, avoir le moins d'accès aux soins, le moins d'accès à une vie digne possible, être finalement vivre toute sa vie, comme on va dire au Moyen-Âge, voire aux âges les plus sombres de la civilisation, c'est-à-dire vivre toute sa vie comme un cerf, hein, si ce n'est pas comme un esclave, quelque part, vivre toute sa vie comme un cerf, Et tant qu'on rapporte au capital, bien entendu, ils réalisent les conditions qu'on reste en vie du moment qu'on leur rapporte plus, d'où les baisses d'aide et tout, la solidarité sociale qui est détruite, tant au point de vue de l'habitat qu'au point de vue des institutions, des lois, du code du travail, tout ce que c'est. Tout ça, c'est bien programmé. Et le mépris maintenant affiché par Macron est un mépris programmé par cette classe. Lui-même est zélé par rapport à ça, il faut reconnaître. Il est peut-être aussi, je veux dire, il est quand même, c'est quelqu'un qui a relativement beaucoup d'ambition et imbu de sa personne. Je pense tout de même qu'il faut être assez imbu de sa personne en voyant les comportements qu'il a, notamment au Salon de l'Agriculture. Là, ça a été catastrophique, Daniel, tu hoches la tête, mais... Voilà, donc tout ça, c'est voulu par cette classe. Et à un moment donné, par rapport à l'enjeu social et l'enjeu aussi de la nature, l'enjeu climatique, l'enjeu de la biodiversité, parce qu'ils sont prêts à tout sacrifier pour leurs milliards de dollars, hein, à un moment donné, il faut se poser la question de nous, les plus nombreux, de se mettre en place. Et la conclusion de Madame Monique Pinson-Charlot est aussi excellente parce que j'approuve et je pense que Daniel de se mettre en marche mais à notre manière, nous, pas en marche Macron, parce qu'en fait il a dit en marche, mais je sais même pas où il sort, de se mettre en ordre de combat par tous les moyens, je ne dis pas armé, pour l'instant on n'en est pas là, mais je ne sais pas si un jour on sera là, on verra en face ce qui nous oppose, hein. Il y a déjà des heurts, on le sait, mais de ce même, malheureusement en Palestine c'est beaucoup plus grave que ça, de se mettre en ordre de marche pour abattre ce capitalisme. Et je voudrais finir par une anecdote qui quand même m'a beaucoup touché aussi parce que c'est sur mon territoire, sur le territoire de Martigues, dont l'union locale de Martigues a été victime d'actions fascistes, c'est-à-dire qu'ils ont mis des étiquettes, ils ont mis des badges, des trucs, ils ont collé des étiquettes Action française, des étiquettes nazies sur l'union locale CGT l'union locale de Martigues, la maison des syndicats, et donc ils ont attaqué la CGT, aussi sur le fait qu'ils ont affiché, bien entendu, l'organisation CGT et pour l'autodétermination du peuple palestinien et pour la paix en Palestine contre le gouvernement Netanyahou, aussi fasciste, voire qui prend maintenant, ça a pris des tournures de nazis, puisque bombarder les hôpitaux, tuer les enfants et tout, c'est les nazis qui faisaient ça, hein. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est j'ai du mal, hein, avec ça. Bon, et donc les fachos, ils ont aussi arraché les affiches du loto qui va avoir lieu le 7 mars à Port-de-Boux, à la salle Gagarine, en soutien au peuple palestinien. Et je voulais déjà le dire, 7 mars à partir de 18h, je crois, il y aura un loto organisé en faveur du soutien du peuple palestinien, c'est-à-dire que tout l'argent ira pour soigner, pour les réfugiés, pour les aider dans leur grand malheur, et dans le grand malheur de l'humanité d'ailleurs, parce que c'est un grand malheur de l'humanité, ce qui se passe là-bas, avec dont on ne mesure pas encore les conséquences, je pense. Je voulais vous dire que c'est une façon de résister, et que là, face à cette attaque fasciste, qui, je pense, n'est pas un fait isolé, mais qui est un fait de connivence entre l'impérialisme et ces forces noires qui ont toujours été un outil pour soumettre les peuples, ces forces noires de l'impérialisme que sont les fascistes, qui ont toujours été un outil pour soumettre les peuples. Je voulais vous dire que cet acte n'est pas un acte isolé, et cet acte-là, on va répondre, et on va répondre fermement avec toute la fraternité et toute la force qu'a la CGT des Bouches-du-Rhône. Merci de votre écoute. Je voulais au revoir à tous, à très bientôt.
Bien, Lucien. Mais écoute, notre mission se termine, 56. Je vais mettre un peu de musique et j'envoierai le générique. Et nous vous disons rendez-vous mercredi prochain avec la Libre Pensée. Voilà, allez, un peu de musique et le générique qui suit. Bon après-midi à toutes et à tous, et merci de votre écoute.